Du silence, bonjour. En fait, je devrais dire bonsoir. Nous sommes le 2 février et vous écoutez Flash sur le monde par Élise Bock. Je suis toujours à Yaoundé, hein, donc ça vous vous en doutez parce que le jour où je n'y serai plus, je vous le dirai. Donc c'est pas la peine de vous dire toujours je suis toujours à Yaoundé. J'y suis et puis bon, je suis l'actualité internationale. C'est facile pour moi hein, parce que je suis un peu dans les tuyaux depuis 2008 exactement avec la candidature de Barack Obama. Et donc, je le rappelle toujours, hein, parce que c'est un point, j'allais dire, fondateur pour moi, pour ma voix, pour la voix que vous entendez, qui devrait être meilleure que cela. Mais voyez-vous, hein, je suis nomade, et donc je fais ce que je peux. Quand les enregistrements ne sont pas de très bonne qualité, je demande votre indulgence, parce que, en Afrique, il y a du bruit tout le temps, de partout. C'est très, très pénible. Je suis obligée d'enregistrer là où je peux, là où l'inspiration m'arrive. C'est pas souvent l'inspiration, je l'ai toujours. Mais bon, j'ai pas toujours les conditions qu'il faut, voilà. Donc, c'est compliqué lorsqu'on n'a pas un studio personnalisé, de façon, comment on dit, insonorisée pour pouvoir faire ces émissions. Je les fais donc à la nomade et je vous demande, je fais mon mea culpa quand c'est pas très bon au niveau du son. Mais c'est important que je vous indique les conditions dans lesquelles je travaille et bon, prenez ça comme ça. C'est du reportage sur le terrain. Et puis c'est pas plus mal aussi que je sois en Afrique, parce que étant en France ou aux États-Unis, on a l'impression d'avoir le nez sur le guidon. Alors ce qui est bien, c'est lorsqu'on est hors de la France et des États-Unis et qu'on a toujours le même regard sur les choses et peut-être doublé cette fois-ci par la présence sur place qui vous permet de comprendre et de voir l'Afrique autrement. Donc le Mali. Voilà, le Mali, on va parler du Mali. Rien ne va plus entre la France et son, je vais dire quoi, c'est son enfant, c'est pas son meilleur élève, mais disons que le Mali, l'Afrique de l'Ouest en général et le Mali en particulier, le Sénégal aussi d'ailleurs, ont des relations très très serrées avec la France. Plus serrées que, en fait, l'Afrique de l'Ouest a des relations plus serrées que l'Afrique centrale ou de l'Est ou du Sud avec la France. C'est une tradition et c'est dû certainement à l'héritage de ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. On a dit tirailleurs sénégalais, mais en fait, ce sont tous les soldats africains qui sont venus pour sauver la France de l'invasion allemande. Ou l'occupation. Et je ne vais pas dire Hitler parce que Hitler, c'est un symbole qui a été dévoyé et qui aujourd'hui est sujet à trop de, comment on va dire, de mauvaises interprétations et de polémiques et fait qu'on ne peut même pas refaire l'histoire. Figurez-vous que Whoopi Goldberg, Whoopi, je ne sais pas comment on l'appelle, vous voyez l'actrice qui a joué Sister Act. Son nom fait toujours problème, vient d'être suspendue d'une émission qu'elle faisait, je ne sais plus sur quelle chaîne en Amérique, parce qu'elle a dit que l'Holocauste n'était pas une question de race, mais bon, voilà, une question d'élimination de tout ce qui n'était pas greffé à ce que le Führer appelait la race aryenne. Donc déjà la question de la race en tant que telle, intellectuellement, on nous a dit que ça n'existait pas. Et ensuite, on voit très bien que si on parle de, alors des juifs, on verra très bien qu'il n'y a plus rien qui distingue le juif de l'occidental. Pourquoi? Déjà parce qu'ils sont blancs. Et que les noms ont été, par exemple, francisés, même si quelqu'un comme Éric Zemmour s'appelle Éric, mais Zemmour, c'est moi, je croyais que c'était arabe 100%, mais quand il dit juif berbère, quelque part, on s'en fout. On s'en fout, mais il suffit seulement de dire une toute petite chose sur cela pour que ça prenne des proportions extraordinaires et les maîtres des médias vous virent, même si vous avez été une très grande actrice comme cette dame. Bon, donc on commence déjà à situer un peu le problème de ce qui se passe au Mali, en passant par les contours, si vous voulez, de la chose. Et toujours dans ce registre des concours, des contours, pardon, on a la réaction des candidats à la question malienne. La réaction vous montre très bien pourquoi il y a un problème, pas un problème, pourquoi il y a une question malienne. Notamment ce que Madame Marine Le Pen a dit. Madame Marine Le Pen, qui se présente comme étant hors système, fait en fait partie du système corps et âme, parce que c'est la seule qui arrive et qui tient des propos complètement désuets du genre gel des avoirs des dirigeants maliens. Fermeture des frontières, c'est plus fermeture des, pas des frontières, mais de la possibilité pour que les immigrants envoient de l'argent ici, sanctions contre les dirigeants, vous voyez toutes ces choses qu'on a entendues et qui n'ont fait qu'empirer les choses. Alors, il faut revenir. Et c'est d'ailleurs pour cela que le ministre des Affaires étrangères du Mali appelle les autorités françaises à respecter le Mali. Ça, c'est des propos où ils ont été humiliés, bon, parce que le Mali, vous savez très bien, je ne vais pas revenir sur des faits qui sont évidents, hein, a demandé, a donné 72 heures depuis lundi à l'ambassadeur français qui s'appelle Meyer, de quitter le territoire, ce qui est à proprement parler inouï jusqu'à présent, chose impensable. Bon, forcément, la France se sent humiliée, il n'y a pas de quoi, parce qu'elle sait très bien de quoi elle retourne. Il faut faire un bref historique sur la question malienne. C'est que il faut revenir à Kadhafi. Il faut revenir à Kadhafi. Kadhafi était un peu une plaque tournante entre l'Afrique noire, surtout de ce côté-là, du Mali, du Niger, et tout ce qui remontait de l'Afrique centrale, en passant par le désert pour aller en Europe. Kadhafi les réceptionnait en Libye et quelque part organisait l'immigration à la place des pays développés, pour qu'ils ne soient pas inondés, comme ils le disent. Et quelque part, Kadhafi, la Libye, a essayé d'intégrer ce qu'elle pouvait, mais il n'y a pas une formule magique, hein, pour intégrer les immigrants. Il n'y avait pas vraiment de racisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a éliminé Kadhafi. On a éliminé Kadhafi. Et en éliminant Kadhafi, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà la manière qui a été utilisée. C'est-à-dire qu'on a monté un petit gang de groupe à Benghazi en disant que c'était des gars qui étaient martyrisés par le colonel et qu'il fallait vraiment soutenir ces gars-là. C'est la France, c'est l'Union, c'est pas l'Union européenne, c'est les Britanniques, le gouvernement de Monsieur Cameron et c'est Obama qui ont organisé cette chose-là, tous les trois, du jour au lendemain, des gamins de Benghazi qui traînaient par là, se sont trouvés être les grands opposants du monde qu'il fallait recevoir à l'Élysée vite, vite, vite fait, alors que M. Sarkozy avait ses problèmes personnels, hein, qui cachaient derrière cette affaire, mais pas seulement personnels aussi, disons que pour lui rendre justice, il y avait vraiment, comment on va dire, le feu à la maison, puisque M. Kadhafi voulait tout simplement créer une monnaie africaine, ce qui n'était pas acceptable pour Paris, puisque avec ça, Paris perd beaucoup de choses. et notamment la mainmise et le pouvoir de contrôler. Mais revenons à cette façon de faire où on génère carrément un groupe de petits terroristes délinquants et qu'on joue après. On peut même remonter en Irak, hein, en Afghanistan avec Al-Qaïda, parce qu'on va retrouver tout cela au Mali. On va retrouver tout cela même au Cameroun et au Nigeria d'ailleurs. Cette méthode qui consiste à fabriquer ou à fabriquer d'abord des terroristes qui sont présentés comme étant des opposants et qui vont gêner l'image d'un président en place, même si, je veux dire, avant la démocratie déjà, il y a cette histoire de géopolitique complètement criminelle qui fait que... Une fois que ces groupes sont générés de cette façon-là, comment on dit, ex nihilo, c'est du tout cuit. Les présidents sont gênés aux entournures, ils ont des guerres aux entournures. C'est un peu comme le Cameroun en ce moment, avec la guerre du Nord-Ouest-Sud-Ouest qui serait probablement dû, il paraîtrait, j'ai entendu, au fait que le Cameroun n'a pas voulu accepter de mettre en place, enfin, oh, mon français se perd ici, là, de faire une loi sur l'homosexualité, déclarant qu'elle accepte l'homosexualité, et que ça lui était imposé, notamment par l'Amérique, l'ambassadeur américain qui essayait de jouer à ça. Ça, c'est. On dit, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. On dit, c'est le peuple qui le dit. Et moyennant quoi, à la suite, on a vu arriver cette guerre qui, pourtant, par des motifs qui sont honorables, que des avocats demandent, ou des enseignants, ou d'autres personnels honorables demandent à ce que tous les textes soient traduits en français et en anglais. C'est quelque chose de très juste. Qu'il demande un équilibre régional, c'est très juste, mais après, derrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une manipulation qui se fait. Et comme toutes les guerres, toutes les révolutions, elles sont faites par des bourgeois. Vous savez, les prolétaires, ils font pas de guerre, hein, c'est difficile. Ils n'ont pas cette capacité-là. Prolétaires du monde, unissez-vous, c'est vite dit, mais on a vu que Karl Marx lui-même a vu que c'était pas possible. Toutes les révolutions sont faites, sont menées, sont pensées par une certaine classe, et c'est peut-être cette classe aussi aujourd'hui que Zemmour représente, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est de cela qu'il s'agit. C'est pas le gars à l'usine qui va faire sa révolution, non. Bien sûr, il y a les gilets jaunes qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils ont marché. Et en d'autres temps, ça n'aurait pas été possible, hein, si on regarde l'histoire. Donc, l'Occident a pris l'habitude de créer le terrorisme, des terroristes, de s'en servir comme bras armés et éclaireurs pour aller déstabiliser les États ou les nations africaines ou non africaines, mais qui ne sont pas encore développées, qui ne veulent plus être à sa botte. Vous voyez? Donc, ça part de là, c'est descendu de la Libye, vous avez vu le printemps arabe, c'était la même situation. Les opposants naissaient comme cela, et puis Al-Qaïda avançait, et tous les groupes qu'on a imaginés entre-temps, et ça arrive au Mali. Le Mali est déstabilisé depuis, avec Kadhafi. Et qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Hollande se dit, oui, il nous a dit qu'il va au Mali pour aider le Mali à lutter contre ces forces terroristes qui vont probablement lui bouffer une partie de son grand territoire, lequel territoire est truffé, comme partout en Afrique, d'or, de diamants, de tout ce que vous voulez, comme matière première absolument onéreuse et qui font la richesse de l'Occident. Et que le Mali ne s'est pas exploité. Alors, à ce moment-là, M. Hollande est venu. Il a bénéficié de quoi? C'est le deuxième effet déclenchant, après l'effet printemps arabe, décès de Kadhafi. Il bénéficie comment on va dire ça, quand M. Hollande arrive, des accords de la défense, des accords de la défense qui ont été rédigés avec les premières, enfin, je vais dire première décolonisation, parce que là, on assiste à une deuxième décolonisation, mais j'espère que cette fois-ci, ça va être la vraie. Et il y a eu des accords de défense qui ont été écrits, exigés, imposés par le général de Gaulle, entre autres, et qui disaient que ben, les Africains, c'était une façon de contourner l'indépendance et de maintenir les États sous tutelle. Et par la suite, en leur disant que si vous êtes menacés, nous sommes là, par la suite, les chefs d'État eux-mêmes ont trouvé dans cette configuration matière à escroquer leur population en restant au pouvoir plus qu'il n'en faut, en contrepartie de quoi, plus ils restaient, plus la France devait les protéger du peuple, parce que la France avait précisément besoin de ce genre de dirigeants pour faire ce qu'elle veut en Afrique. Alors, ces accords de défense, d'ailleurs, le colonel Goïta, qui a pris le pouvoir au Mali, les dénonce et veut qu'on revienne sur la table pour probablement les supprimer, parce que c'est avec ça qu'il y a les bases militaires, entre autres, vous voyez. C'est toute une géopolitique de la décolonisation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, d'une tentative de décolonisation qui a donc généré par. Vous savez, l'homme est formidable hein, dans le détournement de tout, qui a généré ce monstre, les accords de défense pour Paris et puis les chefs d'État de l'autre côté qui se retrouvent, qui sont d'accord pour servir ces accords de défense dans la mesure où, étant valets pour la France, ils sont quand même les rois pour les peuples africains. Moyennant quoi, jusqu'ici, l'Afrique continue à travailler pour la France ou pour l'Occident. Ça, c'est la deuxième raison. Mais si on remet tout cela en perspective, on va dire qu'il y a trois niveaux. Il y a le niveau, puisque les choses ont évolué aussi en parallèle, de l'autre côté, toutes les choses n'ont pas été égales par ailleurs, comme on dit en économie. Il y a eu, on va dire, c'est une logique en strates. Il y a la logique, la géopolitique, qui concerne les relations nord-sud. Dans les relations nord-sud, il a été établi que le nord produirait et le sud consommerait. Voilà. Et Samir Amin a appelé ça l'échange inégal. Donc le nord produit, vous consommez, et quand vous consommez, c'est encore le nord, pardon, qui produit, qui fixe les prix. Et vous suivez comme ça, moyennant quoi, vous qui consommez, si d'aventure vous devez produire, on va se servir de vos terres, mais c'est pas vous, ce sont toujours eux qui vont revenir le faire. Et si vous le faites, ils vous diront quel genre de culture faire, parce que vous allez les apporter sur le marché mondial, l'OMC, qui va donc définir les prix de ce que vous avez produit pour eux. Pour le marché international, on appelait ça l'économie de la rente. Donc il y a cette première organisation internationale du travail. Vous voyez, je vous cite les organisations internationales parce que c'est la géopolitique du monde qui est concernée dans l'affaire du Mali. Donc c'est qui fixe comme ça les critères. On a déjà parlé de ça ici. C'est le Nord produit, le Sud consomme et puis point barre. Il n'y a pas de développement possible pour le Sud. Ça, c'était déjà inscrit dans les tables de la loi de la géopolitique, il y a que les non-initiés qui n'avaient pas compris la musique. Et ensuite, vous avez le niveau France-Afrique. La France-Afrique, elle fait partie d'un autre réseau intermédiaire, vous voyez, entre la grosse géopolitique, ce qu'on a défini là, et le niveau infra qui sera la gouvernance locale. Parce que quand on dit ici qu'il y a une gouvernance locale qui n'a pas marché, il faut dire pourquoi. D'où ça vient et quelles sont les contraintes aussi qui pèsent sur ces chefs d'État, ce sont celles que j'énumère là. Il y a donc, et bon, bien sûr qu'il y a la soumission volontaire, la servitude volontaire, comme on dit, mais évidemment, ça c'est évident. Au niveau de la France-Afrique, tout le monde connaît la France-Afrique, tout ce qu'elle a généré comme scandale de spoliation et d'enrichissement personnel direct de tous les dirigeants de la Ve République, sans exception de gauche comme de droite. Tous. Ils ont mangé l'argent de Bongo, ils ont pris l'argent de Bokassa, ils se sont servis de leurs femmes, etc., etc. Ils faisaient ici la pluie et le beau temps. Quelque part, Macron n'est pas loin, il fait partie de ce même système-là de spoliation de tout ce qui est, parce que maintenant on peut plus seulement parler de matières premières. Vous avez toute l'économie en fait en Afrique, j'y suis au premier rang, est prise en otage ou en charge par les multinationales. Parce que vous savez, la colonisation se recycle. Hein. C'est au début, c'était la traite des Noirs qu'on a vu très grossière comme ça. On porte les gens, on les tabasse, on les enchaîne, on les brime, on les viole, on fait tout ce qu'on veut d'eux, comme plus que, je veux dire, moins que des bêtes. Et puis, on a évolué, vous voyez, vers des formes de civilisation, formes civilisées de domination qui ont fait donc après l'esclavage, on dit la colonisation, après la colonisation, le néocolonialisme, etc. Vous avez des mots savants qui sont greffés dessus. Et puis on a eu le FMI qui est arrivé, plan d'ajustement structurel. C'est-à-dire que le FMI estime que vous ne savez pas gérer vos biens, laquelle, comment on va dire, note des agences de notation, vous voyez leur rôle, est basé sur le fait déjà que ce sont eux qui définissent les critères, comme sur, vous avez vu le mot de la production, comme on disait, sont eux qui définissent les critères de la bonne gestion. Si vous ne satisfaisiez pas à cela, bah, tant pis, vous devez, pour avoir de l'argent, parce que c'est le cycle de l'argent qui compte. La raison pour laquelle d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, précisément avec le Mali, et ils viennent de créer l'écho. L'écho, c'est quoi? C'est un franc CFA revisité, juste pour qu'il s'adapte peut-être au système financier, la sous-région, la CDAO, peut-être, je ne sais pas, mais l'écho, ça veut dire quoi? C'est la même chose, c'est même la réconversion, toujours le même qui revient avec un masque différent. C'est ça qui n'est plus supportable. Tout bouge, mais rien ne change, vous voyez? Et donc après, quand on vous pose ces ajustements structurels, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, c'est les multinationales qui sont là. C'est Orange qui va faire les télécommunications, c'est MTN, c'est ces groupes étrangers, c'est Nextel, Camtel qui est du Cameroun, balbutiement, trop de difficultés, concurrence sauvage. Et vous avez donc pas seulement cette histoire de matières premières brutes, mais dès qu'il y a un pan de progrès qui s'ouvre, tout de suite les multinationales occupent ce secteur-là et les gens sont un peu asphyxiés. Vous voyez, on n'a pas le chômage atteint des trucs affolants, 40%, et on a un salaire minimum au Cameroun qui est fixé à, je crois, 60 euros, c'est-à-dire à peine 2 euros par jour. Vous voyez, le seuil minimum de pauvreté fixé par la Banque mondiale. Quand vous avez des enfants, je vous dis tout de suite, vous ne pouvez pas. Et donc, ça génère la corruption à grande échelle et surtout, ça génère le faux. Alors, vous avez juste les Africains qui sont spécialisés dans le faux, dans le mensonge, dans des petites escroqueries quotidiennes entre eux. Personne ne peut plus être correct, personne ne peut plus être honnête. Tout le monde essaye de tirer parti de quelque avantage que ce soit, mais quel que soit. Je peux dire, il peut être infime, mais eux, ils sont dessus parce que c'est déjà une question de survie. Comme la Banque mondiale a dit, 2 euros par jour, vous allez où? Et c'est le salaire minimum. Au Cameroun, Monsieur Ouattara, c'est vrai, fait beaucoup d'efforts pour avancer, mais Monsieur Ouattara, c'est la CEDEAO. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il va faire quoi? Il va Monsieur Ouattara au pouvoir grâce à la France, grâce à Sarkozy. Parce que là aussi, Monsieur Gbagbo voulait faire une monnaie. Non, on n'accepte pas. On l'a tout de suite dépossédé. Déposé, pardon, du pouvoir, et puis on a mis Monsieur Ouattara. Alors, il a travaillé, il paraît, il a fait des choses où tous les dirigeants, je vais dire, il y a qu'une différence de degré, mais pas de nature de ces dirigeants-là. Ouattara, bon, peut-être qu'il part bientôt avant de partir, il fait des choses. Bien sûr, il y a d'autres qui vont partir bientôt qui n'ont pas fait des choses. Quand on dit partir bientôt, c'est-à-dire qu'on calcule le nombre d'années au pouvoir, et puis on s'est dit, peut-être que c'est pour bien. C'est pour bientôt, c'est le désespoir, j'en rigole, mais c'est des sujets qui sont graves. Alors quand on dit simplement c'est la gouvernance, la mauvaise gouvernance, les élections truquées qui font que les mêmes restent là, l'injustice criarde comme on a dit, le chômage persistant, les Africains dépossédés de tout chez eux, notamment pas d'industrie, pas de possibilité d'aller toucher justement à tout ce qui est minier, exploitation minière, pétrole, gaz et tout le reste. Bon, vous savez, le Cameroun joue la CAN et Le stade phare Olembe a été entièrement fabriqué en Italie. Piccini a ramené ici la société, tous les préfabriqués du stade. On a juste monté là sur place ici. Donc quelque part, les Africains étaient juste là pour assembler hein, des manœuvres. Tout a été conçu, fabriqué en Italie. On est venu le déposer ici, comme on vient déposer des choses dans un désert. Puisque bah, c'est comme ça doit marcher comme ça. Et si vous demandez à ce que ça soit fait ici, par exemple, si on avait demandé qu'il y ait de pas Eneo, qui est une société multinationale qui gère l'énergie d'ailleurs, si on avait demandé à ce qu'il y ait des panneaux solaires, ben non, on n'aurait pas accepté ce qu'on aurait eu, mais peut-être aussi que le marché serait allé à l'Espagne, parce qu'il paraît qu'ils sont spécialisés là-dessus. Les flux financiers, c'est la Suisse. Le Luxembourg, éventuellement. Bon, vous voyez, c'est comme ça. L'Afrique n'a rien. L'Afrique n'a rien. Et à un moment donné, quand même, au diable, la démocratie. Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie si la démocratie existait pour qu'il y ait du progrès? Si nous sommes dans une démocratie où il n'y a pas de progrès, ça donne pas. Si nous sommes dans une démocratie où on crie démocratie, démocratie, on reste pauvre éternellement, ça va pas. Il y a eu un débat ici parce qu'il y a eu des morts au stade d'Olembe. Parce que, vous savez, à force d'être dépossédés, les Africains sont un peu dans un comportement qui s'apparente à une forme de... Vous savez, la survie engendre une forme de sauvagerie, de brutalité, de... Les gens ne sont pas vraiment éduqués, sinon au vol. Oui, parce que les dirigeants volent. Si... Enfin, ils sont éduqués de façon tellement déviante, parce qu'ils s'inspirent des déviations de ceux qui apparemment réussissent, et c'est donné comme étant le destin. C'est un déterminisme en fait. Donc soit vous suivez cette voie-là et vous allez y arriver, soit vous ne vous, vous en écartez, vous n'y arriverez jamais. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Ils suivent, ils suivent. Et alors ces morts, on s'est rendu compte que pour aller au stade aussi, puis il y a eu des gens qui n'arrivaient pas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. On a eu le débat sur l'opportunité de donner une CAN, un événement comme celui-là, à des États. Quelle est l'opportunité si les territoires bénéficient d'aucun développement? Pas d'infrastructure, pas, rien. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas l'électricité. Bon, parce qu'il y a la CAN, elle va rester là, mais s'il y a des coupures de 2 semaines, 3 semaines, c'est partout comme ça. On continue à puiser l'eau en ville sur la tête parce qu'on allait à un puits de fortune quelque part où on a creusé un puits à poser à côté de chez soi où tout le quartier vient puiser l'eau et puis c'est sale. Bon, en fait, c'est un environnement totalement insalubre qui fait que les gens sont éduqués comme ça. Ils sont le reflet de cet environnement-là. Il est évident que la génération actuelle à laquelle Monsieur le colonel Goïta appartient, et en Guinée, j'ai pas retenu le nom, mais c'est la même chose. Burkina Faso, ça va être la même chose. Mais sur le Burkina, d'ailleurs, fait une chose intéressante. Ah ben si, c'est la constitution qui fait problème. On va faire comme les autres, on la change, et puis on attribue aux institutions les pouvoirs. Les gouvernements ne sont plus démocratiques. Ce sont des gouvernements à la limite clandestins. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait contre la clandestinité? Ben, les militaires montent au créneau. Parce que là, on n'est plus dans la démocratie, dans le militaire qui doit... Quelque part même, c'est le militaire qui doit sauver les États aujourd'hui et les nations, sinon c'est foutu. C'est foutu carrément. Donc on peut pas dire comme la CEDEAO a fait fermeture des frontières. Je veux dire c'est la stratégie de vous savez de l'étranglement. C'est toujours ça comme l'Union européenne fait d'ailleurs gel des avoirs. Qu'est-ce qu'on n'a pas promis au Mali c'est l'étouffer. Bon alors le Mali va décider plus de langue française comme le Rwanda, peut-être le rouble comme monnaie, ça change quoi? Ça change quoi? On peut décider d'une rupture radicale là, parce que et puis saisie des avoirs des autres, pardon. Si vous saisissez les avoirs des dirigeants maliens ou des Maliens, au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce qu'il y a un incident pseudo-démocratique. C'est pas il n'y a pas de démocratie tant que le registre est celui-là. Il n'y a pas de démocratie. Donc il faut assainir. Vous voyez, le travail est immense. La question malienne, elle est immense. Il faut assainir tous les niveaux qu'on a définis. Ça veut dire, il faut prendre le problème par le bout par le bon, par le fond, par le bas, ce que Zemmour appelle la reconquête, la refondation. Il faut prendre ce problème à ces niveaux et dire maintenant ça suffit, l'Afrique doit être libre, c'est-à-dire souveraine. À partir de là, on établit de nouveaux accords de coopération et de nouvelles façons de faire les choses. Ce n'est pas plus mal. Donc c'est maintenant que se joue avec la question malienne la question de la véritable libération de l'Afrique. Avant, on a essayé dans les années 60 de faire ce que, bon, voilà, c'était bien de commencer, mais aujourd'hui, c'est vraiment le moment clé. Je ne sais pas si ça passe toujours forcément par les coups d'État, puisque le Nigeria est en train de faire une révolution. Monsieur Dangote, le cimentier, l'a crié. Il n'est pas seulement cimentier. Là, il est entré dans le pétrole. La plus grande usine, la plus grande raffinerie de pétrole au monde se trouve au Nigeria aujourd'hui. Crié par Dangote, le milliardaire, multimilliardaire. Des choses qui étaient interdites en Afrique, le Nigeria a commencé à les faire. Et ça va, on estime à 36 000 personnes qui vont être employées. C'est toute une ville qui va être créée, avec des logements qui ont déjà été construits, 50 000 logements, parce qu'il y aura plus. Vous voyez, c'est tout un projet qui est conçu, bâti. Peut-être qu'il est fait avec les Européens, avec les Occidentaux, avec les Russes, j'en sais rien. Mais d'ailleurs, au nom de quoi la France va interdire les Russes d'arriver au Mali? Au nom de quoi? Puisque. Pardon, avec ce que j'ai dit au début, c'est la France qui avance avec les terrorismes et les terroristes. Elle vient là, elle joue sur les deux tableaux comme elle a toujours fait. Elle dit qu'elle est terroriste, elle prend cela pour prétexte, et ensuite elle s'installe et elle couvre les terroristes tout en exploitant les matières premières. Et pendant ce temps, le Mali n'a droit de rien dire. Il suffira que la France, comme on a demandé, comme le colonel Goïta a demandé, se retire. Il faut qu'elle se retire du Mali, qu'elle retire ses bases militaires de partout. Et ça, c'est valable pour l'Amérique, c'est valable pour tous les autres. Retirez vos bases militaires. Revenons à des... Bon, alors, une fois que je le dis, c'est trop facile, hein. Ça, c'est un processus qui va être long. Mais déjà, il faut qu'il soit acté et qu'il y ait un début, de retrait, hein, et qu'on arrête de couvrir les terroristes, parce que là, pour le coup, la France couvre les terroristes et travaille avec les terroristes. Elle a fait ça en Angola, où elle finançait les deux côtés de la guerre. Elle a fait ça en Afrique du Sud, où alors que le monde entier avait mis l'Afrique du Sud sous embargo, la France continue à livrer des armes. Toujours, on joue sur les deux tableaux. C'est quelque chose de fréquent. Et donc, c'est l'autre façon de maintenir l'Afrique sous tutelle, vous voyez. Et si on fait un coup d'État, les gens arrivent avec, oh, franchement, c'est scandaleux et tout, c'est scandaleux quand on brûle les élections par le vol, le vote par correspondance aux États-Unis. Ben évidemment, ce n'est pas scandaleux. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? On l'a vu, je crois, je sais pas si le juge a accordé la possibilité, un juge a accordé la possibilité qu'on revienne, l'État m'échappe là. Mais vous verrez qu'on compte un peu ça. Et on a eu à la caméra des gens qui remplissaient, qui bourraient les urnes. Ça, c'est vu. Pas possible de contrôler. Ça se fait comme ça. Bon, on me dira, c'est pas parce que ça s'est fait comme ça qu'il faut qu'ici, au Cameroun ou ailleurs, il y ait des coups d'État. La question n'est pas là. On fait du Dangote, c'est une révolution. On fait au Nigeria toujours, ils sont dans une production de riz incroyable parce qu'avant, vous voyez, on importait du riz en Afrique et vas-y qu'on importe, et vas-y qu'on importe. Le pétrole d'ailleurs, le Nigeria, il avait beau être un si grand producteur de pétrole, il importait du pétrole et des produits dérivés. Comment vous expliquez cela alors qu'il doit exporter en permanence, comme la Libye faisait? Et en ce moment, le Nigeria a du riz, plus on parle de 100 000 tonnes, des tonnes et des tonnes qui sont produites des riz, qu'ils ont exposées sous forme de pyramides, hein, dans un hangar quelque part. Il y a du riz maintenant, ils sont exportateurs. Voilà comment l'économie doit se passer. Alors, c'est vrai, ça remet en cause toute la logique économique sur laquelle est basée la géopolitique du monde. Ça remet en cause toute la logique sur laquelle est basée la domination du monde. Ça remet beaucoup de choses en cause, notamment du côté de l'Occident. C'est pour cela que l'Amérique, qui est en perte de vitesse terriblement, l'Union européenne et la France sont, je vais dire, sens dessus, sens dessus. Ils aboient. Moi, j'appelle ça aboyer, mais ils feront rien parce que, franchement, là, les Africains sont à bout. Ils vivent de boulot de merde. C'est vraiment le forçat ici. Non, non, non. Il faut vraiment que. Et c'est la pauvreté en permanence. Alors, si la Banque mondiale, je ne sais pas si elle est en train de jouer un double jeu, elle aussi, parce qu'elle est criée, parce que c'est ça le système occidental. D'un côté, on spolie, et de l'autre, le bâton et la carotte. De l'autre, on essaye de vous donner, de faire de baume au cœur, des petits massages comme ça. On envoie la Banque mondiale pour vous aider un peu. Mais si c'est vraiment pour entretenir la pauvreté et la maintenir comme cela, afin que, si, pour que les pays occidentaux soient riches, il faut que les autres soient pauvres ou que la Russie soit détruite avec le cas de l'Ukraine. Non, 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 ça ne peut pas aller. La Chine, pendant longtemps, elle était dans ce système-là. Vous voyez, des dépendances vis-à-vis de l'Occident. Jusqu'au jour où elle a compris que mais elle pouvait le faire. Elle peut faire des choses. Et depuis que la Chine a compris cela, a commencé à faire des choses, vous avez vu où elle est arrivée? Alors, on ne veut pas que les autres arrivent à ce niveau-là. Il faut les brider. Pourquoi les brider? Alors qu'on sait très bien que l'Occident avait une avance, pardon, telle que, ils étaient je veux dire, quasiment irrattrapables. Bouh, qu'est-ce qui se passe en Occident? Il faut que l'Occident fasse un examen de conscience. Le problème du Mali montre aussi est le miroir inversé de ce qui se passe en Occident. L'Occident n'avance plus, l'Occident est bloqué, l'Occident ne peut plus rien faire depuis. Elle avance par à-coups et par hasard avec tout ce qu'elle appelle la réalité augmentée. Mais ce qui se passe, c'est que l'Occident est bridé. Il y a les mêmes forces qui brident l'Afrique parce qu'elles sont assouvies, elles sont inassouvies, elles sont insatiables. C'est les mêmes forces qui brident l'Occident aujourd'hui, qui empêchent l'Occident d'avancer, l'Union européenne en étant une. Et surtout, le concept de la sortie de la souveraineté, le concept du refus de la mise en concurrence des nations pour propulser l'excellence, mais voilà, c'est le problème. L'Occident est bridé, il faut que l'Occident, au lieu de regarder le Mali, l'Afrique, de continuer à les exploiter, parce que c'est un filon qui ne va plus tenir, la nouvelle génération ne va pas accepter. Ça, c'est clair. Dans la nouvelle génération, je parle de ceux, pas de la bourgeoisie, mais de cette classe-là, vous voyez, qui peut réfléchir et qui peut agir, ne va plus accepter cela. Donc il faut que l'Occident revienne, se recentre un peu, se regarde lui-même dans un miroir et s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous sommes restés à ce niveau-là? La Chine est venue nous rattraper. Regardez l'Amérique. À force de magouiller, de mettre n'importe qui au pouvoir parce qu'il peut magouiller, voilà, ça donne ça. Ça donne ça, c'est-à-dire qu'il y a une médiocrité propre à l'Occident qui s'est créée et qui conduit comme ça sa propre décadence. On ne réfléchit plus, on passe par les moyens de traverse pour évoluer. Il n'y a plus de méritocratie, c'est pour cela Zemmour, il insiste là-dessus. C'est fondamental parce que c'est civilisationnel. La méritocratie, une fois qu'on l'a abandonnée, on est en chute libre. Et en Afrique, on l'a abandonnée depuis longtemps, on a obligé les gens à l'abandonner. L'Occident ne veut pas reconnaître qu'il est dans le même schéma d'abandon du progrès, de la méritocratie, de la justice sociale. Toutes ces valeurs, de la liberté aussi, qui a bridé. Vous savez, maintenant, pour crier, il faut que vous soyez dans le. Comment j'appelle ça? Dans la fosse commune. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous voulez écrire? Ah non, on ne peut pas vous éditer. On édite les copains et les copines, et puis voilà, ce qui vous plaît. Vous voulez, ou ceux qui ont l'argent, vous voulez. Apporter des documents, faire des. Vous n'avez pas les moyens. Qui va vous donner les moyens? Personne. Vous voulez être acteur, actrice? Ah, bah, c'est compliqué. Vous savez, on a mis des barrières et des complications un peu partout pour finalement revenir à des moyennes. Vous avez la musique, c'est alors un délabrement là-bas total. N'importe quoi comme musique qu'on écoute ici, des trucs de merde, on bouge comme ça et tout. Mais la musique, il n'y a plus. Vous voyez, parce qu'on est passé par ces filtres-là, ces fourches caudines, on dira, sataniques, je n'ai pas d'autres mots, mais c'est ça, anti-civilisationnel, démocratique, disons-le, si on veut. Si la démocratie, c'est pas seulement les élections et puis le respect des institutions figées, frigorifiées, rigides, les institutions elles-mêmes devaient se développer, se déployer autrement, c'est pas possible. Elles se sont rigidifiées, se sont ossifiées et puis on y entre par filtrage, lequel filtrage passe par tout sauf le mérite, forcément. Bon, parfois il y a le mérite. Et que l'Occident revienne à ça, ouvre les vannes, et elle verra la créativité se faire. Elle verra des miracles, j'allais dire, se faire, au lieu de regarder toujours la vache à lait qu'est l'Afrique pour l'extraire et puis en vivre tranquillement sans trop se casser la tête. C'est trop facile, chaque chose a une fin, pardi. J'allais dire bordel. Donc, la question du Mali, c'est celle-là, hein. Elle concerne le monde. Tout simplement. Et quand un pays comme le Mali se souvient de son histoire, c'est pas par hasard que ça commence par le Mali. Vous savez, les gens, à un moment donné, il faut se souvenir de son histoire. C'est ce que la Chine avait fait. Elle s'est souvenue, à un moment donné, au tournant des années 80, c'était quoi la Chine avant? Hein? C'était un empire, c'était une force. Bien sûr, il y a eu Mao Zedong entre-temps. Bon, la révolution culturelle, c'était quoi? En se souvenant de cela, de qui on est, ben c'est déjà très bien, on peut avancer. Le problème de l'Afrique, c'est que elle n'arrive pas à se souvenir de ce qu'elle était avant. Le Mali s'est souvenu qu'il était un empire. Il était un empire, attendez. Il s'est souvenu que c'était la première université au monde, Tombouctou, qui s'est souvenu. Bon, il faut faire revivre toutes ces choses-là. Et si on est là à toujours suivre l'Occident comme si on était des gamins, on va pas y arriver. La reconquête, c'est un très très beau slogan, mais moi j'aurais pas vu ça en titre de campagne, mais j'aurais vu ça vraiment en mot d'ordre du parti. Mais bon, c'est très bien. Moi je suis pas là pour juger Monsieur Zemmour, mais ce que je vais dire quand même pour finir et clore sur la question de la méritocratie, c'est que moi, j'ai vu, vous avez vu Le Pen qui pleure parce que, y a des transfuges, hein. Les gens s'en vont vers Zemmour. Mais, honnêtement, au mérite, si on veut faire comme on fait des classifications extrême droite et tout ceci, bah, c'est évident que dans ce registre-là, que Zemmour déborde d'ailleurs, Zemmour est mille fois mieux que Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle devrait, si elle était honnête, se rallier à Monsieur Zemmour parce que elle peut pas tenir, elle pourra pas tenir la course parce que là, elle est dans la moyenne passable et puis Zemmour est dans l'excellence dans son registre, dans ce registre-là. Elle ne peut pas faire concurrence. Donc les gens ne partent pas par hasard, ils partent parce que à un moment donné, l'excellence se voit et fonctionne comme une locomotive. Vous voyez, c'est ça qui attire les gens. C'est pas la médiocrité. Bon, la médiocrité ou la moyenne, ça attire dès lors qu'il y a des contraintes par ailleurs, telles qu'on a expliqué. Mais si les choses sont simples, les gens voient très bien où se situe le leadership, où se situe le guide, où se situe la sortie, les gens voient, on voit bien les gens ceux qui peuvent conduire. Tout le monde n'est pas pareil. On a mis tout le monde au même niveau, les putes, les grandes dames, les stars, les tout. On a tout mélangé, les torchons et tout, les sportifs et toutes ces merdes-là. On a mélangé tout, on a fait micmac. Tout le monde est égal à tout le monde. C'est faux. C'est faux. C'est ça qui conduit l'Occident dans le gouffre, hein, dans le néant. Tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Ça ne veut pas dire que y a des êtres ultra supérieurs, mais ça veut dire que chacun dans sa spécialité peut être extraordinaire. Il faut le reconnaître. Et en politique, comme partout ailleurs, en ce moment, Marine Le Pen, elle s'étonne, les gens vont chez Zemmour. Mais bien sûr qu'ils vont chez Zemmour. Qu'est-ce qu'elle croit? Il devrait même aller plus. Elle s'étonne qu'on voulait la parrainer, mais tout le monde n'est pas. Enfin, il y a des gens qui ont quand même un peu de jugeote et qui peuvent comprendre des choses, elle-même la première. Mais elle est dans l'ancien système qui consistait à dire parce que c'est moi, le système m'a élu, m'a choisi, donc c'est bien, c'est le système qui choisit pour les gens. Vous vous rendez compte? Et quel système on voit jamais personne? C'est des allées de couloirs flous. Tout est dans l'opacité. C'était ça, jamais été ça, ces gens qui vous parlent de démocratie par la suite. Bon, à un moment donné, je me dis, vous savez, des choses, des sujets comme ceci, on peut être intarissable, et puis après, bon, il faut s'arrêter quelque part, parce qu'après, on reste oublié ce qu'on a dit au début. Mais libérons l'Afrique, que l'Occident comprenne qu'il est temps de libérer l'Afrique. Et s'il comprend ça, tout ira très bien. Et s'il ne le comprend pas, ça ira quand même avec les coups d'État ou alors d'autres révolutions culturelles comme ce que le Nigeria est en train d'entreprendre. Ben, on ne peut pas éternellement cantonner les gens au rôle d'esclaves, hein, ou de sous-hommes, de sous-hommes. Voilà. C'est ça, c'est ce qui se joue au Mali. Le Mali n'a jamais été un continent, enfin une nation de sous-hommes, un empire, c'est des empires. Bon, tous ceux qui ont cette tradition-là, c'est un empire. Il faut que chacun regarde maintenant dans son patrimoine, dans son histoire, comment le recréer, comment le mettre en valeur, comment créer la richesse à partir de tout cela. Et normalement, avec les échanges, si nous sortons du, il y aura toujours des plus grands, il y aura toujours des plus grands. Qu'est-ce que vous croyez que la France est vraiment petite aujourd'hui? Et ma petite, il y a des nations qui envoient déjà des satellites au ciel et d'autres qui sont loin. Quoique le Rwanda a envoyé son satellite, d'autres, vous voyez, il y a des choses qui paraissent tellement éloignées, mais qui en réalité sont si proches. Et alors on donne l'illusion que c'est inaccessible, c'est loin et tout, mais en fait c'est pas inaccessible, c'est pas loin. Et c'est ça qui gêne l'Occident. C'est-à-dire que quand on découvre leur jeu, ils se fâchent tout rouge. Il n'y a pas de quoi se fâcher, il faut se dire que c'est normal, tout le monde doit y pouvoir le faire, et tout le monde doit pouvoir vivre heureux. Et on va pas être missionnaire, mais à un moment donné, bah, c'est le seul message qu'il y a, le Messie. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbok. Je vous dis à bientôt. Et le feuilleton Mali-France, je crois que ça continue parce que si la France continue à prendre des choses sur ce ton, ça va pas du tout aller. Et ils n'ont pas imposé un rythme au Mali sur quand est-ce qu'on doit repasser le pouvoir sur la constitution à dire? Constitution a dit qu'on réécrit les constitutions. Voilà, et c'est le peuple qui parle, le peuple est avec le colonel Goïta. Il faut laisser ce gouvernement ou de transition ou pas, qui a même d'ailleurs dit que les militaires étaient plus mauvais dirigeants que ceux de la société civile. On a vu que ceux de la société civile, et on termine vraiment là-dessus, sont pires, peuvent être pires que les militaires. Thank you.